Au bout de l'actu. Alpe 1. Avec Alex Cam et Cyril Michard.
Avec notre invité ce soir dans Au bout de l'actu, Cédric Carotte, directeur territorial des Alpes du Sud pour l'APF, l'Association des paralysés de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, j'aimerais revenir sur cette inquiétude qui remonte à la semaine dernière, inquiétude de la part des syndicats patronaux. Le gouvernement envisagerait, selon eux, d'obliger les PME de moins de 20 salariés à embaucher des personnes handicapées. Alors, il faut savoir aujourd'hui que seules les entreprises de plus de 20 salariés y sont contraintes. Pour autant, impossible d'obtenir la certitude quant à cette annonce de la part notamment des parlementaires et notamment d'Emmanuelle Fontaine-Domézel qui est la députée des Alpes-de-Haute-Provence et référente de la mission handicap au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu vent de cette annonce, c'est-à-dire de contraindre les PME de moins de 20 salariés à embaucher des personnes handicapées?
Alors pour être très honnête, non, j'ai pas eu écho de cette information. Personnellement, j'ai pas non plus le positionnement de l'APF. Tout de suite, j'aurais envie de m'en réjouir. Après, je reste quand même dubitatif, parce que l'emploi, c'est une question compliquée. Le ratio, s'il est de 6%, ça me questionne. 6% de 10 salariés, comment ils vont faire?
Vous rejoignez un petit peu finalement la position du syndicat de l'UPE dans les Hautes-Alpes, le syndicat des patrons, c'est de dire aujourd'hui comment on arrive à contraindre par exemple une PME de 3 salariés à embaucher 6% de personnes handicapées. Forcément, on n'y arrivera pas parce que ça représente des 0, quelque chose et à la fin, les PME vont payer.
Oui, c'est ça. Après, ce qui est aussi dommage, c'est qu'on est toujours obligé de passer par la contrainte. On aurait pu aussi passer par la sensibilisation ou de l'incitation. Après, on peut se dire que peut-être qu'avec des temps partiels, parce que des personnes handicapées sont parfois fatigables ou ont des soins, etc., et que certains préféreraient avoir des temps partiels. En tout cas, moi, je m'interroge sur la mise en place et les modalités de mise en place. Après, nous, on est 6 salariés sur l'ensemble du territoire. On a 2 salariés en situation de handicap, donc c'est aussi possible et ça peut fonctionner correctement.
Donc c'est possible, ça peut fonctionner. Alors là, dans ce cas-là, il faut vraiment faire passer un message auprès des patrons, parce qu'il y a un constat quand même qui a conduit le gouvernement d'Emmanuel Macron à mettre en place certaines actions et à faire du handicap l'une de ses priorités. Les personnes handicapées en France ne représentent que 3% de l'ensemble de la population salariée. On peut prendre aussi un exemple local. Dans les Alpes-de-Provence, le taux de chômage des personnes handicapées est de 10%. Et si le taux d'emploi des travailleurs handicapés atteint 6% dans le secteur public, donc le quota demandé, il est seulement de 4,8% dans le secteur privé. Ça veut dire quoi quand je donne ces chiffres-là? Ça veut dire que les entreprises préfèrent payer ou qu'il y a un double constat? Les personnes handicapées ont un problème de formation?
C'est une très bonne question. Moi, je pense que le problème, il est exactement celui que vous dites et il est même plus large que ça. Je m'explique, c'est que une entreprise aujourd'hui, si elle cherche un comptable, handicapé ou non, elle cherche un BTS, un BEP de comptabilité. Et aujourd'hui, l'accès à la formation, quand je dis l'accès, c'est physiquement, et pas toujours simple. Donc les personnes handicapées sont souvent victimes de discrimination quant à la formation et du coup, ça se répercute sur l'emploi. Si on cherche un comptable et que la personne qui se présente n'a pas de diplôme de comptabilité, handicapé ou non, on ne l'apprendra pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis après, il y a tout ce qui est autour de l'entourage de la personne. Tout simplement, quand on a un service d'aide à domicile qui intervient à 9h le matin ou à 10h le matin et que vous embauchez à 8h, eh ben, vous ne pouvez pas conserver votre emploi. Si votre service de transport à la demande ne peut pas vous prendre aux horaires pour le travail, vous ne pouvez pas aller travailler. Donc, au-delà de la formation, il y a effectivement la discrimination. Hein. Certains employeurs ne souhaitent pas embaucher des personnes en situation de handicap. On l'a déjà vu, on a fait du testing, hein, ça arrive. Il y a le problème de la formation. Et puis après, il y a l'accès aux soins, le transport, qui sont des vrais freins pour le travail des personnes en situation de handicap.
Finalement, la loi de 2005 concernant l'accessibilité des bâtiments et espaces publics aurait dû être un peu plus large sur une accessibilité tout autre, vous le disiez, l'accessibilité physique aux formations, etc. L'accessibilité dans le quotidien aussi.
Oui, alors grâce à la loi de 2005, on ne peut pas nier que ça a énormément avancé. On ne va pas nier non plus, et c'est mon travail de faire en sorte que ça continue. Il reste beaucoup à faire. Mais en tout cas, effectivement, quand on voit que l'échéance de rendre la France entièrement accessible était au 1er janvier 2015, on est en 2018, on en est encore loin. Alors effectivement, maintenant, il y a les agendas d'accessibilité programmés qui sont encore à nouveau repoussés. Il y en a qui sont créés encore pour 3 ans en ce moment même. On sait que le chemin sera long. Nous, ça nous attriste parce que cette revendication quant à l'accessibilité, qui est un des piliers pour que les personnes handicapées puissent vivre normalement, et quand on parle de personnes handicapées, je parle de tout handicap confondu, ouais. Auditif, visuel, il n'y a pas que le handicap moteur. Ce pilier fait que la personne handicapée peut vivre normalement. Après, on peut rajouter les ressources et d'autres choses, mais voilà.
Finalement, cette loi de 2005 qui fixait l'objectif à 2015, vous le dites, aujourd'hui, le chemin sera encore long. Il y a encore des reports qui sont en place. On a mal jaugé l'accessibilité, le problème d'accessibilité en France, ou on est face aussi à un manque de courage politique? Ou les deux?
Alors, je vais faire un constat, c'est que les deux lois majeures, du moins que je considère majeures sur l'accessibilité, sur le handicap, c'est 75 et 2005, et c'est sans parti pris, c'est Monsieur Jacques Chirac Premier ministre et Monsieur Jacques Chirac Président. Il était touché lui-même par le handicap, en tout cas c'est factuel, c'est lui qui a créé ces deux lois. Alors je me dis, est-ce qu'il faut être touché par le handicap pour porter cette cause-là? C'est un fait. Et après, non, je pense pas que c'est un manque de courage. C'est que ces lois, si on reprend la loi de 75, un certain nombre de décrets d'application sont jamais sortis. Donc c'était une loi qui est vide de sens. S'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas un cadre législatif qui dit comment doit être appliquée la loi. Et la loi de 2015, c'était pareil sur l'accessibilité. Il n'y a pas eu de sanctions sur ceux qui n'en ont pas fait le travail. Alors au 31 décembre 2014, certains se sont inquiétés des coûts qu'ils allaient avoir pour rendre accessibles leurs établissements recevant du public en deux jours. Bah oui, mais ils ont eu presque 40 ans avec la loi de 75 et ils n'ont rien fait, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, pas contraint. Et moi, je pense que c'est très franco-français, c'est très triste et dommageable. On le voit, par exemple, pour les places de parking réservées aux personnes en situation de handicap, qui sont plutôt bien respectées maintenant, pour deux raisons. C'est qu'il y a un quota de nombre de place qui a été établie, et que l'amende est passée à 135 euros. Quand elle était à 11 euros, ça freinait personne.
Mais vous le disiez tout à l'heure, l'emploi notamment, c'est dommage de passer par des quotas et donc par une répression. Il aurait fallu plutôt une incitation.
Alors, moi, je suis vraiment pour ça. Une incitation, une sensibilisation.
Mais ça ne marche pas.
Il semble que ça ne fonctionne pas. L'exemple de la place de parking. Ouais. Nous, on a fait pendant des années des campagnes de sensibilisation. Alors, les gens étaient tout à fait d'accord avec nous. Ils étaient dans l'empathie. Mais le stationnement ne changeait pas. Les gens continuaient à se garer sur ces places-là.
Et que dit l'accessibilité dans les Alpes du Sud? On se souvient des baromètres de l'APF qui concernent les deux villes-préfectures. Gap et Digne-les-Bains, il y a eu certaines améliorations. Mais pourtant, ce n'est pas pour autant que ces deux villes sont dans le haut du tableau.
Non.
Après, on est aussi dans des territoires de montagne et ça rend la tâche plus compliquée selon les élus.
C'est ce que j'allais dire, c'est que si on prend par exemple la thématique du transport, qui en termes d'accessibilité est un pilier, comme je le disais tout à l'heure, je crois que personne en situation de handicap ou valide que je suis, on est en difficulté sur la question du transport. Moi, je cherche des moyens alternatifs pour éviter de prendre ma voiture. C'est pas simple, il me faut le double de temps pour aller de Gap à Manosque. Voilà. Et après, aujourd'hui, si je prends par exemple pour Manosque, on a un transport qui existe et qui est plutôt bien fait. Par contre, la difficulté, c'est qu'il faut, encore une fois, quand on est une personne handicapée, on ne peut pas avoir de spontanéité. Il faut toujours anticiper. Il faut réserver son transport, il faut dire quelle ligne on va prendre et à quelle heure, et au moins 48 heures avant. Donc, si on décide d'aller au cinéma et tiens, on a passé une super soirée, on veut manger ensemble, etc., bah non, c'est pas possible. Parce que le bus qui est accessible ou qui va nous transporter, c'est à telle heure et c'est pas un autre.
Donc, il y a encore du travail. Cédric Carotte, restez avec nous. On revient juste après la pause sur Alpe 1, tout de suite.
Au bout de l'actu. Alpe 1. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Vous êtes sur Alpe 1, troisième partie d'Au bout de l'actu avec notre invité ce soir, Cédric Carotte, directeur territorial des Alpes du Sud pour l'Association des paralysés de France. On parlait du handicap et de l'emploi. Quelle est la population la plus vulnérable, notamment dans les Alpes du Sud, face au chômage?
C'est-à-dire,
est-ce que par exemple, les seniors sont particulièrement visés par le chômage, les personnes peu qualifiées?
Ouais, c'est essentiellement les personnes peu qualifiées, et puis après, ça va être toutes les craintes de l'employeur d'embaucher une personne en situation de handicap en se disant qu'elle va être plus absente, qu'elle va avoir des difficultés, comme on le disait, de transport, etc. C'est vraiment cette frange-là qui, pour moi, est plus en difficulté.
Et donc, on tombe dans des stéréotypes. C'est peut-être là le plus grand handicap de la population handicapée face à l'emploi. Comment on les combat?
En nous sollicitant? Non, au-delà de la plaisanterie, effectivement, souvent, pour avoir travaillé auprès de managers à l'embauche de personnes handicapées, on se rend compte que On parlait d'absentéisme il y a deux secondes. Moi, j'ai un absentéisme qui avoisine le 0%. Parce que j'ai des travailleurs en situation de handicap et que, de manière inconsciente, les autres travailleurs, quand ils ont un petit rhume, etc., relativisent leur situation de vie et du coup, sans rien dire, j'ai rien mis en place de particulier, j'ai pas très peu d'absentéisme. Donc, il peut y avoir un intérêt. L'autre intérêt, c'est aussi une solidarité entre collègues sur des actes quotidiens, pour le café, pour je ne sais quoi. Moi, j'y vois plus d'intérêt. Et après, les craintes... comme vous le dites, c'est des préjugés, elles sont souvent infondées, parce qu'une personne en situation de handicap, connaissant la difficulté de trouver un emploi, parfois elle sera encore plus laborieuse que quelqu'un d'autre pour bien démontrer qu'elle maîtrise son poste et sa place.
Alors, je le disais, Manuelle Fontaine de Mézel est la référente handicap au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle vous a déjà sollicité un rendez-vous? Et quand vous allez la voir, quel est le premier dossier que vous allez aborder avec elle?
Alors, effectivement, on essaie d'avoir un lien régulier avec nos parlementaires, parce que c'est quand même eux qui font voter les lois, qui votent les lois. Donc, on aime bien avoir cet échange-là pour qu'ils connaissent notre point de vue et nos attentes, en tout cas, qu'on ait un vrai échange là-dessus.
Notamment Pascale Boyer, la députée de la première circonscription de Hautes-Alpes, qui a visité, il y a quelques jours en arrière, la MDPH du côté de Gap.
Puis voilà, moi, je l'ai rencontrée vendredi sur d'autres sujets. Donc, effectivement, on essaie d'avoir ce lien-là avec Madame Boyer ou Madame de Mézel. Madame de Mézel, oui, on l'a rencontrée. Elle souhaite nous voir justement au vu de ses nouvelles missions pour avoir une vision locale et pragmatique des attentes des personnes handicapées. Donc on échangera avec elle. Alors quel dossier je défendrai en priorité? Je crois que clairement on sera sur les ressources des personnes handicapées, puisque tout à l'heure je parlais de piliers. Si on peut pas sortir de chez soi, ça marche pas. Mais une personne en situation de handicap qui, de mémoire, et sauf erreur, vit avec 815 euros par mois, c'est tout simplement inadmissible et c'est une double peine. On ne peut pas être et en situation de handicap et non reconnu travailleur handicapé et vivre dans la précarité toute sa vie, quoi.
Alors, on va revenir justement en parlant de l'AAH, hein, l'allocation adulte handicapé. Juste avant d'en parler, est-ce que vous arrivez à entendre les discours des conseils départementaux qui sont en charge des allocations individuelles de solidarité et qui disent aujourd'hui ça nous coûte trop cher?
Non, je l'entends pas. Alors pourquoi je l'entends pas? C'est énormément d'argent, mais ça a toujours été. Mais est-ce que c'est de la responsabilité d'une personne qui a eu un accident ou qui est née en situation de handicap? Moi, je crois que la solidarité nationale, elle doit jouer et on doit... alors, on est bien d'accord, on va pas donner des millions à ces personnes-là, mais le minimum pour vivre décemment, c'est-à-dire, je sais pas, à hauteur d'un SMIC, d'un revenu décent, voilà, en tout cas au-dessus du seuil de pauvreté.
Alors, vous le disiez, justement, aujourd'hui, c'est un peu la double peine. Avec 815 euros, on garantit une précarité pour les personnes handicapées. On revient sur le débat qui s'amorce aujourd'hui, la revalorisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui sera portée progressivement à 900 euros d'ici novembre 2019. Actuellement, c'est autour de 811 euros par mois. Pour vous, la réalité n'est pas satisfaisante de cette revalorisation. Pourquoi ?
Alors déjà, on a été déçus par les annonces d'Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'il nous avait promis une augmentation importante et rapide, du coup, de 100 euros. Du coup, on n'est plus à 100 euros, on est à 90. La rapidité, c'est sur 2 ans. Voilà, donc ça nous a questionnés et déçus au vu des annonces au moment des élections. Après... Ben, on est bien d'accord, tout le monde a compris la politique actuelle, ce qu'on prend d'un côté, on l'enlève de l'autre, et en définitive, les personnes qui vont effectivement avoir une augmentation de cet ordre-là sont peu nombreuses, c'est moins de 50%, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui vont diminuer, on va pas en parler, mais...
Ça veut dire qu'ils vont durcir les critères d'attribution ?
Non, il y a d'autres choses. Par exemple, sur les critères, si je reprends, aujourd'hui, un couple, deux personnes en situation de handicap touchant l'allocation adulte handicapé, ils touchent 2 AAH. Ben là, il y aura un coefficient et ce sera x 1,8.
Donc, ce sera plafonné en dessous.
Voilà. Et du coup, si nous, le calcul qu'on fait, c'est qu'au bout du compte, très peu de personnes vont avoir une augmentation. Entre ce qu'elles vont gagner d'un côté et perdre de l'autre, le nombre de personnes touchées par cette augmentation, je vous dis, c'est moins de 50% des personnes touchant l'allocation adulte handicapé ou la pension d'invalidité.
Alors, il y a une autre annonce aussi qui fait grincer les dents, c'est la fusion des deux compléments de l'AAH qui existe pour compenser l'absence de revenus professionnels des personnes en situation de handicap qui accèdent à l'autonomie et donc qui ont certains frais, comme des frais de logement par exemple. Le gouvernement lui avance une clarification avec ces deux fusions, mais aujourd'hui l'APF dénonce un manque à gagner pour 65 000 personnes en France.
Oui, parce que moi, je comprends l'idée du gouvernement de dire qu'il faut clarifier, c'est normal. Mais après, vous le constaterez vous-même, il y a autant de personnes handicapées que de situations de handicap. Mmh. Donc, c'est aussi normal que le système soit compliqué, parce que au vu des difficultés des uns et des autres, elles sont pas les mêmes et on n'a pas besoin des mêmes attentes. On en parlait tout à l'heure. Il peut y avoir, par exemple, des troubles invisibles. Et ça, effectivement, on voit pas que la personne elle est en situation de handicap, mais elle a besoin de ce complément de ressources pour financer un certain nombre de choses de son quotidien. Quand on peut pas s'orienter dans l'espace et dans le temps, on a besoin d'un GPS, on a besoin de choses pour pouvoir le faire.
Et pourquoi ce sera un manque à gagner? Alors, j'ai vu qu'il y a deux aides aujourd'hui qui ne sont pas cumulables et qui ne sont pas du même montant. Et selon l'APF, la crainte, c'est que ce complément de ressources ira vers la moindre des aides.
C'est exactement ça. C'est exactement voilà. Ça. On a peur que ce soit nivelé vers le bas. Si on nous dit, notre crainte, elle est là, tout à fait. Vous avez résumé le propos.
Avez des garanties du gouvernement pour ne pas aller dans ce sens?
Pas actuellement. En tout cas, c'est en discussion. Hein. Voilà, c'est notre travail de faire en sorte que ce soit nivelé plutôt vers le haut, mais voilà, c'est pour le moment, on n'a pas de certitude.
Alors, question qui peut-être est bête pour vous, mais c'est important aussi de le savoir, c'est quoi aujourd'hui la réalité d'une personne handicapée? On a brossé beaucoup de problématiques, la précarité, le manque d'accessibilité, c'est tout ça finalement, la journée d'une personne handicapée, dans les Alpes du Sud notamment?
Ce serait réducteur parce que il y a quand même des gens qui arrivent à avoir une vie sociale, un travail, un revenu décent.
Voilà. Et c'est un combat du quotidien?
Exactement. C'est-à-dire que on ne peut pas. La situation peut rapidement changer et puis après, pour être très honnête, notre travail est plus en lien avec les personnes les plus démunies, les plus faibles. Mmh. J'allais dire que le jeune cadre dynamique médaillé d'or en e-sport, nous on le voit peu ou pas. On va plutôt voir quelqu'un qui, suite à son handicap, est dans une grande précarité financière, a plus de réseau social. On organise, nous, des temps conviviaux régulièrement pour deux raisons. Hein. C'est pour permettre à des gens d'avoir une vie sociale. Par exemple, au moment des fêtes de fin d'année, on a des gens qui, à part avec nous, ne font vivent aucun événement festif. Mmh. Et puis la deuxième raison, c'est permettre un loisir accessible. Parce que quand vous ne pouvez pas aller au cinéma tout seul, faut payer son transport, faut payer la participation de son accompagnateur. Voilà, on multiplie le prix par deux, par trois, par rapport à une personne valide. Et c'est pas normal, surtout quand on a 815 € par mois.
D'où, j'allais dire, peut-être l'importance d'avoir un médaillé dans les Alpes du Sud. Arthur Baucher, médaillé aux Jeux Paralympiques, troisième médaille d'argent hier.
Ouais.
C'est possible, l'accessibilité au sport, c'est possible et ça conduit. En plus, il a 17 ans.
Ouais, oui, et puis c'est un joli espoir. Non, et puis l'activité sportive, culturelle, voilà, ça permet une vie comme tout à chacun. Du moins, moi, je suis convaincu qu'on a besoin d'autre chose que le travail et que sa vie familiale. Donc, ça en fait partie.
Et c'est encore une problématique. Le volet culture, ça a été l'une des problématiques pour l'avant-première du film de Xavier Giannoli, L'Apparition, du côté d'un cinéma à Gap, qui n'était pas accessible alors qu'il y avait des figurants qui étaient handicapés.
Tout à fait. Alors, nous, c'était une déception totale. Je souhaite quand même rappeler, hein, parce que cette affaire a été un peu relayée dans les médias. Nous, on voulait pas pointer forcément le cinéma, mais on voulait pointer le quotidien d'une personne handicapée. Là, on a une production qui vient nous voir en disant on veut faire jouer des figurants en situation de handicap, on veut des vraies personnes handicapées, pas des gens qui jouent ou qui fassent les handicapés. Donc, on propose des gens, le tournage se passe très bien, le film passe en avant-première, donc les personnes handicapées sont ravies de pouvoir aller se voir. C'est chouette, on a joué avec Vincent Lindeau, c'est plutôt sympa. Et voilà, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'encore une fois, on peut pas aller se voir parce que le cinéma est pas accessible. Et ça, c'est le quotidien d'une personne handicapée. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir son film, on va choisir son cinéma, mais pas son film. On va, si on passe une soirée agréable, et ben, on pourra pas décider à l'heure où on doit se quitter parce qu'on a un transport qui arrive à telle heure et c'est celui-ci qui est adapté et pas l'autre. Donc, ça, c'est le quotidien d'une personne handicapée. J'ai un ami qui me dit, la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas le droit à la spontanéité. Je dois tout doit être prévu, sinon ça fonctionne pas correctement.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut tout organiser. Alors, durant ces derniers mois, les conseils ont invité un membre permanent de l'autre conseil APF des Alpes du Sud afin de créer des liens plus étroits, donc des liens entre 04 et 05. Les réalités des deux départements sont-elles complètement éloignées? Est-ce qu'il y a des spécificités aux Alpines, bases Alpines?
Non, je trouve que non, c'est des territoires qui se ressemblent. Après, je dirais que sur Manosque, on est plus sur une mentalité du Sud. Mmh. On se rapproche d'Aix, de Marseille. Sur Gap, on est plus sur une mentalité encore de montagne. Moi qui viens des Deux-Savoies, voilà, je m'y retrouve plus sur cette mentalité-là. Après, il y a des thématiques qui reviennent. On en parlait tout à l'heure, la question du transport, que ce soit sur le 04 ou le 05. Mais après, qu'on soit en situation de handicap ou non, la thématique du transport, c'est quelque chose de compliqué. Voilà, l'accessibilité. Après, on est sur des territoires, je vais pas dire ruraux, mais où il y a une petite population. De mémoire, on doit être à 300 000 habitants sur les deux départements. Quand on pense que la Haute-Savoie accueille plus de 60 000 migrants internes chaque année, puisque c'est un département qui est en plein essor, on est sur une population un petit peu particulière.
Alors, vos assemblées départementales se préparent, ce sera pour le mois de juin. Le congrès APF 2018 arrive à grands pas et les consultations sur le nouveau projet associatif 2018-2023. Alors, il y a des dates qui sont annoncées le 21 mars à Gap et à Manosque. Nouveau projet associatif qui devra tourner autour de quoi?
Ah, plein de choses. Non, alors, projet associatif, on va dire que c'est un peu un cadre des grandes ambitions de l'APF sur 5 ans, hein, au niveau national. Après, il faudra le décliner en territoire. Il va y avoir des changements majeurs qui ont déjà été votés en Assemblée Générale. Donc, on aura ces modalités dans le projet associatif, entre autres, sur une ouverture plus grande, parce que nous, normalement, nous sommes à l'origine une association ouverte aux personnes en situation de handicap moteur et personnes cérébro-lésées. Donc là, il y a une ouverture du champ de notre public. Il va y avoir sans doute aussi des choses majeures autour d'un changement de nom notre association.
L'APF ne s'appellera plus l'APF ?
Si, ça s'appellerait, c'est l'Association des paralysés de France qui devrait disparaître. L'APF, ça restera toujours l'APF. Peut-être que d'autres choses seront associées. Voilà, c'est les grandes orientations sur les 5 années à venir que par la suite, on aura un peu de travail pour le décliner sur notre territoire.
Et donc, Cédric Carotte, Semaine nationale du handicap, ça a commencé le 12 mars, ça se terminera le 18 mars avec une opération de collecte. Les fonds permettent quoi?
Alors, c'est marrant, je vais vous faire une question, une réponse en deux temps. La première, ce serait de dire de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir une vie sociale, créer du loisir, etc. Et on le fait régulièrement. Et puis, il y a une réalité qui est moins porteuse, mais qui est aussi vraie, c'est que ça nous permet de faire fonctionner l'association, de payer l'électricité, notre loyer, le chauffage, le salaire. Voilà. On n'aime pas le dire, mais c'est aussi une réalité. On a une délégation... du moins, on est un territoire qui est en déficit, on ne va pas se le cacher. Par contre, on a la chance d'avoir une association nationale qui est à l'équilibre et qui permet d'avoir une représentation, même sur les départements où il y a peu de population et on a moins d'argent. Donc, on a besoin de ce soutien, effectivement, pour juste fonctionner.
Eh bien, merci beaucoup, Cédric Carotte. Je rappelle que vous êtes directeur territorial des Alpes du Sud pour l'APF, l'Association des paralysés de France. On rappelle aussi donc, que vous êtes présent dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes-de-Provence avec plusieurs antennes. Tout ça, on peut le retrouver sur le site internet.
Tout à fait, sur nos blogs.
Ou sur vos blogs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cédric Carotte. On reste sur Alpe 1. D'ici quelques instants, ce sera la première édition du Récap de l'Info. À tout de suite.